Cours d'histologie, un SEM Moussorou. Département de production animale, niveau 1. Texte préparé pour lecture audio. Introduction. Bienvenue dans ce cours d'histologie de l'Institut National Supérieur d'Élevage de Moussorou. L'histologie est la science qui étudie les tissus biologiques, c'est-à-dire les ensembles de cellules organisées qui constituent les organes du corps animal. Chapitre 1. Le concept de vie. Dans l'organisme, on distingue plusieurs niveaux d'organisation, du plus complexe au plus élémentaire. Les systèmes et appareils, les organes, les tissus, les cellules, les organites et les molécules. L'histologie se situe précisément au niveau des tissus et des cellules. Un tissu est un ensemble coopératif de cellules différenciées qui partagent une même localisation, une même fonction et des caractéristiques biologiques communes. Les tissus sont constitués de deux composants, des cellules et une matrice extracellulaire. Ce qui varie d'un tissu à l'autre, c'est la nature des cellules, la composition de cette matrice et la proportion relative entre les deux. On distingue quatre grandes familles de tissus. Les épithéliums, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. À ces quatre familles s'ajoutent les populations cellulaires libres, comme les cellules du sang, et les cellules de la lignée germinale, situées dans les gonades et assurant la reproduction. Chapitre 2. Les épithéliums de revêtement. Les épithéliums de revêtement sont des feuillets cellulaires qui recouvrent toutes les surfaces libres du corps. La surface externe est recouverte par la peau. À l'intérieur du corps, les cavités en communication avec l'extérieur, comme le tube digestif, les voies respiratoires et les voies urinaires, sont tapissées par des muqueuses. Les cavités closes, comme les cavités pleurales, péricardiques et péritonéales, sont tapissées par des séreuses. Les vaisseaux sanguins et le cœur sont tapissés par un endothélium. Tous ces épithéliums reposent sur une membrane basale qui les sépare du tissu conjonctif sous-jacent appelé chorion. Les épithéliums se classifient selon trois critères. Premièrement, le nombre de couches cellulaires. Un épithélium simple ne comporte qu'une seule couche de cellules. Un épithélium stratifié en comporte plusieurs. Et un épithélium pseudo-stratifié présente des cellules de hauteur différente mais toutes en contact avec la membrane basale, donnant une fausse impression de stratification. Deuxièmement, la forme des cellules en surface. Elles peuvent être pavimenteuses, c'est-à-dire aplaties, cubiques ou prismatiques. Troisièmement, la présence de structures spécialisées à la surface libre, comme des cils vibratiles, des microvillosités formant des bordures en brosse, ou de la kératine. Voici quelques exemples concrets. L'épiderme de la peau est un épithélium pavimenteux, stratifié et kératinisé, assurant protection et perception sensorielle. L'épithélium de l'œsophage est pavimenteux, stratifié mais non kératinisé, assurant une protection mécanique. L'épithélium gastrique est prismatique simple et sécrète du mucus pour protéger l'estomac de ses propres sucs acides. L'épithélium intestinal est prismatique simple avec des microvillosités formant un plateau strié, optimisant l'absorption des nutriments. L'épithélium respiratoire est pseudo-stratifié et cilié, ses cils balayant le mucus et les particules vers le pharynx. Les épithéliums se renouvellent en permanence à partir de cellules souches situées dans leur couche basale. L'épithélium intestinal est le plus rapide, se renouvelant complètement en seulement 2 jours. Les fonctions des épithéliums sont multiples, protection mécanique et chimique, échange entre le milieu intérieur et extérieur, mouvement grâce aux cellules ciliées, réception sensorielle, absorption des nutriments et excrétion. Chapitre 3. Les épithéliums glandulaires. Les glandes sont des épithéliums spécialisés dans la sécrétion. Elles dérivent toutes d'un épithélium de revêtement. On les classe d'abord selon le lieu de déversement de leur sécrétion. Les glandes endocrines déversent leur sécrétion, qui sont toujours des hormones, directement dans le sang, sans canal excréteur. Les glandes exocrines déversent leur sécrétion vers une surface, à travers un canal excréteur. Certaines glandes combinent les deux modes. C'est le cas du pancréas, qui sécrète à la fois des hormones comme l'insuline et le glucagon dans le sang, et des sucs digestifs dans l'intestin. On les appelle glandes amphicrines. On distingue ensuite les glandes selon leur modalité d'excrétion. Dans les glandes mérocrines, le produit est expulsé par exocytose, sans perte de substance cellulaire. C'est le cas des glandes salivaires. Dans les glandes apocrines, une partie de la membrane apicale de la cellule est perdue avec le produit de sécrétion. C'est le cas de la glande mammaire. Dans les glandes holocrines, la cellule entière se détruit et constitue elle-même le produit de sécrétion. C'est le cas des glandes sébacées de la peau. Selon leur forme, les glandes exocrines peuvent être tubuleuses, alvéolaires ou acineuses. Elles peuvent être simples, avec un seul canal excréteur, ou composés, avec un canal ramifié. Chapitre 4. Les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs constituent la grande famille des tissus de soutien et de remplissage. Ils comportent tous trois constituants, des cellules, des fibres et une substance fondamentale. Parmi les cellules, les fibroblastes sont les cellules résidentes principales. Ce sont des cellules allongées ou étoilées qui synthétisent et entretiennent la quasi-totalité de la matrice extracellulaire, notamment les fibres de collagène et d'élastine. Ils jouent aussi un rôle important dans la réparation tissulaire. Les adipocytes sont des cellules spécialisées dans le stockage des graisses. Les adipocytes blancs, les plus abondants, représentent 15 à 20% du poids corporel de l'adulte et constituent la principale réserve énergétique de l'organisme. Les macrophages, d'origine sanguine, assurent la défense de l'organisme par phagocytose. Parmi les fibres de collagène sont longues, résistantes mais non élastiques. Elles donnent au tissu sa résistance mécanique. On connaît actuellement 20 types de collagène. Les tendons et les ligaments sont formés de collagène de type 1. Les fibres élastiques, constituées d'élastine, sont résistantes et reprennent leur forme initiale après étirement. Elles sont abondantes dans la paroi des grandes artères et dans les ligaments élastiques. On distingue plusieurs variétés de tissus conjonctifs. Le tissu conjonctif lâche est la variété la plus courante, avec une répartition équilibrée entre cellules, fibres et substances fondamentales. On le trouve dans le derme superficiel, autour des muscles et tapissant les muqueuses. Le tissu adipeux est une variété spécialisée, à prédominance de cellules adipeuses. Le tissu conjonctif dense est riche en fibres et pauvre en cellules, formant les tendons et les ligaments. Le tissu cartilagineux est un tissu conjonctif spécialisé dont la substance fondamentale est solide et élastique. Il est entouré par le périchondre, qui assure sa nutrition et sa croissance. On distingue le cartilage hyalin, le cartilage élastique et le cartilage fibreux. Le tissu osseux est un autre tissu conjonctif spécialisé, qui forme le squelette. Il contient trois types cellulaires, les ostéoblastes, qui synthétisent la matière osseuse, les ostéocytes, qui sont des ostéoblastes mûrs emprisonnés dans la matrice, et les ostéoclastes, qui résorbent le tissu osseux lors du remodelage. Chapitre 5. Les tissus musculaires. Les cellules musculaires, appelées myocytes ou fibres musculaires, sont toutes spécialisées dans la contraction. Leur cytoplasme contient des filaments protéiques contractiles, les myofilaments, d'actine et de myosine, dont le glissement les uns sur les autres produit le raccourcissement de la cellule. On distingue trois types de tissus musculaires. Le tissu musculaire lisse est constitué de cellules fusiformes dont la contraction est lente, involontaire et peu fatigable. On le trouve dans les parois des vaisseaux sanguins, du tube digestif, de l'utérus et des voies respiratoires. Sa contraction est régulée par le système nerveux autonome et les hormones. Le tissu musculaire strié squelettique est constitué de longues cellules cylindriques, visibles en microscopie par leur strie transversale régulière. Ces muscles sont volontaires et permettent les mouvements du corps. On distingue des fibres de type 1, dites fibres rouges, riches en myoglobine, à contraction lente et résistante à la fatigue, et des fibres de type 2, dites fibres blanches, pauvres en myoglobine, à contraction rapide mais plus fatigable. Le tissu musculaire strié cardiaque forme le myocarde du cœur. Sa particularité est de se contracter spontanément et rythmiquement, de façon indépendante du système nerveux. Le rythme cardiaque est généré par les cellules du nœud sino-auriculaire. Le système nerveux autonome peut moduler ce rythme. Le système parasympathique le ralentit, le système sympathique l'accélère. Chapitre 6. Les tissus du système nerveux. Le système nerveux des vertébrés contrôle toutes les fonctions de l'organisme. Il reçoit les informations de l'environnement, les intègre et commande les réponses appropriées. Anatomiquement, il se divise en système nerveux central et système nerveux périphérique. Le système nerveux central comprend l'encéphale, lui-même composé du cerveau, du tronc cérébral et du cervelet, ainsi que la moelle épinière. Il reçoit, analyse et répond aux informations. Le système nerveux périphérique comprend tous les nerfs qui relient le système nerveux central aux organes et aux muscles. Le tissu nerveux est constitué de deux grands types de cellules. Les cellules gliales, ou névroglies, sont 10 à 50 fois plus nombreuses que les neurones. Elles assurent le soutien, la nutrition et la protection des neurones. Les astrocytes, de forme étoilée, nourrissent les neurones et régulent la composition du milieu extracellulaire. Les oligodendrocytes et les cellules de Schwann fabriquent la gaine de myéline qui entoure les axones et accélère la transmission de l'influx nerveux. Les microglies sont les cellules immunitaires du cerveau. Les neurones sont les unités fonctionnelles du système nerveux. Ils génèrent et transmettent l'influx nerveux. Chaque neurone comprend trois parties. Le corps cellulaire, qui contient le noyau et les organites, l'axone, prolongement unique parfois très long, qui conduit l'influx du corps cellulaire vers les cellules cibles, et les dendrites, prolongement court et ramifié, qui reçoivent les signaux en provenance des autres neurones. On distingue fonctionnellement trois catégories de neurones. Les neurones sensitifs, qui transmettent les informations des organes des sens vers le système nerveux central. Les neurones moteurs, qui transmettent les ordres du système nerveux central vers les muscles et les glandes. Et les interneurones, qui assurent la connexion entre les deux. La transmission du signal entre deux neurones se fait au niveau d'une structure spécialisée appelée synapse. Il existe deux types de synapses. La synapse électrique permet le passage direct d'ions d'une cellule à l'autre à travers des jonctions communicantes, sans intervention de molécules chimiques. La synapse chimique, de loin la plus fréquente, utilise des molécules messagères appelées neurotransmetteurs. Lorsque l'influx nerveux atteint la terminaison de l'axone, des vésicules contenant des neurotransmetteurs fusionnent avec la membrane et libèrent leur contenu dans l'espace synaptique. Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la cellule suivante et déclenchent, selon le type 2. Récepteur, une réponse excitatrice ou inhibitrice. Parmi les neurotransmetteurs les mieux connus, l'acétylcholine est excitatrice au niveau des muscles squelettiques mais inhibitrice au niveau du muscle cardiaque. La noradrénaline, libérée par le système sympathique, accélère le cœur et prépare l'organisme à l'effort. Conclusion. Ce cours d'histologie vous a présenté l'organisation microscopique du corps animal à travers ses quatre grandes familles de tissus. Les épithéliums tapissent et protègent les surfaces. Les tissus conjonctifs soutiennent, relient et nourrissent les autres tissus. Les tissus musculaires produisent le mouvement. Les tissus nerveux coordonnent et intègrent toutes les fonctions de l'organisme. La compréhension de ces tissus est fondamentale pour aborder ensuite l'anatomie des organes et la physiologie animale. Fin du cours d'histologie. Institut national supérieur d'élevage de Moussoro. Année académique 2025 à 2026.